Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, présenté par Jocelyne Moussaoupondé. Une soixantaine de morts à la suite du naufrage d'une baleinière à Ilebo. Nous en parlons tout à l'heure dans ce journal. Ouverture de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Kinshasa accueille ses travaux depuis hier mercredi. Et puis l'invité de ce journal est Thierry Bonguilo, directeur et chef d'antenne de l'intendance générale pour la Grande Orientale et la Mongala. Bonsoir à tous. Un naufrage sur la rivière Sankoro ouvre ce journal dans le territoire dit Lebo au Kasaï. Plus de 60 personnes sont mortes lundi dans un naufrage d'une baleinière en partance pour Kinshasa. Les faits se sont produits sur la rivière Sankoro, je l'ai dit, à Diboulanseba dans le territoire dit Lebo, non loin de l'embouchure avec la rivière Kasaï. Des sources de l'administration publique indiquent que l'embarcation a quitté dimanche dernier le port de Bénin d'Ibélé dans le territoire de Kolé. Explication Esther Dalafina.
L'administrateur de territoire de Kolé affirme que cette embarcation a quitté dimanche dernier le port de Bénin d'Ibélé dans les territoires de Kolé dans la province du Sankoro avec à son bord 120 passagers et des marchandises. Il se rendait à Kinshasa. C'est dans la localité de Diboulanseba dans le territoire d'Ilebo que cette embarcation a chaviré, affirme la même source. C'est non loin de l'embouchure vers la rivière Kasaï, mais bien connue pour ses tourbillons. D'ailleurs, une autre baleinière est restée coincée depuis son chavirement il y a une année. Sur 120 passagers qui étaient à bord, l'administrateur de territoire indique que les informations en sa possession font état d'une cinquantaine de personnes rescapées. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Contrôle technique des véhicules avec ces SOS de la population de Kinshasa. En tout cas, les Kinois appellent le gouvernement congolais à la mise urgente sur terrain des bus pour soulager leur peine face aux difficultés de transport. Après les débuts de contrôle des permis de conduire hier mardi, c'est au tour du contrôle technique des véhicules ce mercredi. Et ces opérations causent la rareté des transports en commun non en règle. Dans l'entretemps, des Kinois éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer entre rareté et augmentation des prix de la course. Du rond-point UPEN dans la commune de Ngalima, par exemple, et aussi à l'arrêt Sosimat, en prolongeant jusqu'à la gare centrale à Gombe, en passant par Kitambo Magasin, la police ainsi que des contrôleurs et inspecteurs de transport de l'hôtel de ville sont déployés sur ces différents points. Notre équipe est descendue sur ces différents carrefours. C'est le reportage signé Lakinzao et Naomi Mutoki.
Dans ces opérations, la police s'occupe à contrôler les permis de conduire, tandis que les contrôleurs, comme c'est écrit sur leur chemise, s'affairent au contrôle technique des véhicules. Des tronçons sont évidemment dégagés des véhicules non encore en règle, c'est-à-dire ils ne sont pas encore entrés en possession des documents exigés. Sur ces différents points que nous avons fréquentés, les transports en commun sont rares, certains sont déjà saisis pour manque de pièces. Du côté de la population, la difficulté persiste. Certains pensent que la mise à la disposition des bus de l'État serait un salut. Josaphat Ngonde fait cette demande au gouvernement.
Avec les transports, c'est mieux. Ça va rendre accessible les transports faciles si on apportait les nouveaux bus et si les routes seraient finies. Je pense que le président doit penser à ça, le gouvernement doit penser à ça.
Certains conducteurs non en règle pensent que ces opérations sont venues rajouter une couche à d'autres difficultés, notamment des routes. Pour Samantha en parle.
Nous avons garé les véhicules car les contrôles est vraiment sérieux. Avec des barrières placées à différents endroits, c'est ainsi que nous ne savons pas aller au centre-ville. En dehors de cela, certaines routes se sont dégradées. J'ai pu embarquer des passagers pour les boulevards du 30 juin, mais je serai obligé de les débarquer en chemin parce qu'il y a trop de bouchons, les routes sont bloquées.
La population kinoise que nous avons rencontrée dit s'attendre à une amélioration de la situation.
La ville de Kinshasa accueille depuis hier mardi jusqu'à samedi 22 novembre les travaux de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, UPA. La cérémonie d'ouverture de ces assises s'est déroulée à l'hôtel Golden Tulip Kinoasis en présence du président du comité exécutif de l'UPA, des présidents de deux chambres du parlement de la RDC, des présidents des parlements africains ainsi que des secrétaires généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC. Ce forum vise à renforcer la coopération interparlementaire africaine. Explication Blaise Ndongala Mayanda.
Cette session porte essentiellement sur l'examen des demandes des statuts d'observateurs, l'adoption du programme annuel de travail pour 2026 et du projet du budget pour l'exercice de l'année prochaine. Elle planche également sur l'examen et l'adoption du projet d'ordre du jour de la prochaine session du comité exécutif. Ces assises visent à consolider les acquis institutionnels de l'IPA et à renforcer la coopération interparlementaire africaine. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a formulé le vœu de voir ses travaux couronnés des résultats fructueux, porteurs de progrès pour l'Union parlementaire africaine. Pour Aimé Bogi, rester engagé à travailler avec chaque parlement pour promouvoir la paix, la stabilité, l'intégration régionale et le développement durable. Pour sa part, le président sortant du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Ali Kolutu, a souligné que ces travaux offrent aux participants l'opportunité de se pencher sur la procédure de mise en œuvre des recommandations adoptées lors des précédents travaux. Ce grand rendez-vous de Kinshasa regroupe les députés et sénateurs des 42 pays membres de l'UPA.
Et puis, le projet de loi des finances 2026 déclaré recevable à l'Assemblée nationale à l'issue de la présentation des réponses de la Première ministre aux préoccupations des députés nationaux. Le texte a été envoyé en commission économique, financière et contrôle budgétaire pour approfondissement. Hier, la Première ministre Judith Suminoua a défendu devant les députés nationaux le projet de loi des finances pour l'exercice 2026 chiffré à 59 000 milliards de francs congolais, soit plus de 26 milliards de dollars américains. Ce projet de budget s'articule autour de 5 axes stratégiques, notamment la sécurité, les affaires économiques, l'éducation, la santé et la protection sociale. Dans la Mongala, le vice-gouverneur de province, Cédric Ayaka Kouma, est déchu de ses fonctions. C'est au cours d'une plénière tenue au début de cette semaine par l'Assemblée provinciale que les 19 députés provinciaux ont voté pour cette déchéance après la validation d'une motion incidentielle. Selon la cellule de communication de l'Assemblée provinciale de la Mongala qui livre cette information, Cédric Ayaka Kouma a été déchu pour des raisons, entre autres, d'escroquerie, abus de confiance et usage de faux en écriture. La même source confirme que la motion incidentielle soulevée lors de la plénière avait mis l'accent sur une décision judiciaire qui déclarait vacant le poste du vice-gouverneur déchu. Une décision judiciaire, par ailleurs, convoquant l'élection partielle au poste de vice-gouverneur, ajoute la cellule de communication de l'Assemblée provinciale de la Mongala. Contacté, le vice-gouverneur déchu dit être surpris par sa destitution alors qu'il séjourne à Kinshasa pour des raisons d'ordre professionnel. Cédric Ayaka Kouma est joint au téléphone par Askin Zigbataïro.
Réellement, la plénière s'est tenue et l'objectif ou bien les griefs retenus à ma charge, c'était le séjour prolongé ici à Kinshasa. Je dois rappeler que ma présence ici à Kinshasa, c'est sur invitation du VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Le motif, c'était l'arbitrage entre le gouverneur et moi. Et jusqu'aujourd'hui, l'arbitrage à question n'a jamais été organisé et le VPM de l'Intérieur ne m'a jamais reçu. Jusqu'aujourd'hui, je ne bénéficie ni de mon salaire, ni des avantages lié à mon poste. Mais j'ai été surpris qu'il y ait cette plénière. Je dois rappeler que lors de la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres, lu par le ministre Patrick Muyaya, le chef de l'État a été formel tout en interdisant des motions intempestives dans les assemblées provinciales et qu'il préconise la stabilité des institutions provinciales. Mais la surprise est grande qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de la Mongala, cette instruction ferme de l'autorité suprême soit bafouée.
Tête à tête, Félix Tshisekedi est envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. C'était hier mardi au bureau de la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa. Au menu, les différents processus de paix en cours en République démocratique du Congo. Yuan Xiang a déclaré avoir écouté le président de la République faire sa lecture sur la situation actuelle, les efforts de paix africains et ceux tenus par les États-Unis et le Qatar. C'est que nous espérons, c'est que les acteurs africains et externes travaillent main dans la main pour donner un meilleur effet de synergie afin de mettre fin à la crise dans l'est de la RDC et dans la région, a-t-il poursuivi. Parlons santé. Dans la ville de Beni, au Nord Kivu, une centaine de femmes ont été sensibilisées hier mardi à la lutte contre le cancer du col de l'utérus organisée par la zone de santé de Beni en collaboration avec la cellule de communication de l'UNICEF. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale consacrée à la lutte contre cette maladie. À cette occasion, la consultante en communication de l'UNICEF a expliqué aux participantes les principaux facteurs de risque du cancer du col de l'utérus et les a encouragés à se faire dépister régulièrement. Docteur Anne Mounirikana s'exprime au micro de Marc Maroufimbo.
Parmi les facteurs de risque, nous pouvons citer l'exposition d'abord à un virus humain qui expose le plus souvent à faire le cancer du col de l'utérus. Il y a la multiparité, donc le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Il y a aussi les relations sexuelles précoces. Quand une fille de 10 ans, 11 ans commence déjà à coucher avec les hommes, ça peut aussi lui exposer dans le futur à faire un cancer du col de l'utérus. Et aussi le fait d'avoir beaucoup de partenaires sans se protéger. Il y a aussi les facteurs héréditaires. Et pour éviter ça, nous conseillons aux femmes d'aller se faire dépister. Une femme âgée de 20 à 65 ans doit aller au centre de santé au moins après chaque 3 ans, une femme doit aller se faire dépister pour qu'on puisse voir si elle n'a pas encore développé des lésions précancéreuses. Si elle a déjà des lésions précancéreuses, on peut la prendre à charge à temps et là, elle a la chance de guérir.
Toujours au Nord Kivu, plusieurs écoles de la cité de Kiwanja dans les territoires de Rutshuru sont littéralement rongées par les eaux de ruissellement. À l'école primaire Gamaliel, l'une des plus touchées, la menace d'effondrement est si forte que certains parents ont été contraints de changer leurs enfants d'école. Pire, d'autres ont purement et simplement abandonné les cours. En cette journée internationale de droits de l'enfant, les directeurs de ces établissements tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, la seule solution durable, c'est la délocalisation de ces écoles. Les détails avec Rosalie Zawadi.
À l'école primaire Gamaliel, située au quartier Mabungo, la situation est critique. L'établissement est cerné par des ravins de 3 mètres de profondeur creusés par les pluies. Les responsables craignent les pires pour la sécurité des élèves qui jouent à quelques pas du vide. Malgré leurs efforts pour contenir l'érosion, ils se sentent impuissants. Adelar Malikani, préfet de l'Institut Gamaliel, dans la même concession, témoigne.
Nous avons planté des bambous, les bambous qui ont été apportés par des hommes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y mettre de la pelouse aux organisations non gouvernementales et aussi de nous aider. Une solution qui serait durable serait vraiment de délocaliser cette école afin que les enfants ne puissent pas s'heurter à ces dangers qui peuvent même occasionner la perte de leur vie. Que les enfants reçoivent l'éducation dans un milieu vraiment favorable.
Notez que l'école Gamaliel n'est pas la seule en danger. L'EPE Moukali et l'Institut Boutourandé subissent le même sort. Dans cette zone de conflit, l'école représente pourtant l'unique espoir d'un avenir meilleur. Mais cet espoir doit aujourd'hui affronter un nouvel ennemi, le climat. C'est ce que l'UNICEF appelle une crise silencieuse. À Rutshuru comme ailleurs, l'urgence climatique compromet désormais la santé des plus jeunes et menace même de fermer les portes de leurs écoles.
Direction province de Lomami, où plus de 140 tonnes de maïs sont mises en vente depuis lundi dernier. Ce maïs a été produit par la société agropastorale du portail feuille de la Lomami, Saplom Sassu, créé par la province dans le but de relancer l'agriculture et lutter contre l'insécurité alimentaire. La mesurette de 3,5 kg se vend à 2500 francs congolais. Pourtant, sur le marché, la même mesurette coûte 4 000 francs. Explication, Esther Dallafina.
La vente publique de maïs a commencé lundi dernier en Gandanjika, dans le territoire du même nom. L'opération s'est poursuivie ce mardi à Luputa, chef-lieu du territoire de Lwilo. La mesurette de maïs de 3,5 kg coûte 2 500 francs congolais et pourtant sur le marché, la même mesurette se vend à 4 000 francs congolais. Le principe de vente a été annoncé par le service commercial. Chaque client achète que 5 mesurettes de cette denrée. Devant les dépôts, un engouement des femmes ménagères est observée, quelques-unes expriment leur joie.
Nous remercions le gouvernement. Les mécas de maïs coûtent au marché 4 000. Ici, on a mis 2 500. Les 1 500 de surplus, là, ça peut nous aider à acheter quelque chose aux enfants.
D'après les sources du gouvernement provincial de l'Omami, l'entreprise Saplom Sassou est à sa première expérience. Elle a exploité les terres arables des territoires de Ngandanjika et de Lwilo au cours de la saison culturelle 2024-2025. Mais la vente de cet aliment de base de la province sera incessamment étendue dans les villes de Kabinda et de Mweneditu. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Commission européenne a proposé ce mercredi de donner davantage de temps aux entreprises pour appliquer ces nouvelles règles sur les systèmes d'intelligence artificielle dits à haut risque après des appels des parts et d'autre de l'Atlantique à assouplir la réglementation. L'Union européenne s'est dotée en 2024 d'une ambitieuse loi en matière d'IA qui doit entrer en vigueur de manière progressive et Bruxelles veut désormais donner au secteur juste qu'à fin 2027 au lieu d'août 2026 pour se conformer aux obligations sur les IA à haut risque, rapporte l'AFP.
L'invité.
L'intendance générale de Kisangani connaît d'énormes difficultés de fonctionnement. Depuis plusieurs années, ce service du ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et innovation est devenu quasiment l'ombre de lui-même à cause du non-fonctionnement de ses différentes unités. Pour en savoir plus, nous recevons Thierry Bongilo, directeur chef d'antenne de l'intendance générale qui s'occupe de la Grande Orientale ainsi que de la province de la Mongala. Il s'entretient avec Jacques Nkonkole.
Monsieur Thierry Bongilo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes le directeur, chef d'antenne de l'intendance générale de Kisangani. Quelles sont les missions assignées à ce service?
Nous sommes un service spécialisé du ministère de l'ECHI, censé accompagner le ministre en tout ce qui concerne les grands travaux, les grosses réparations, assurer la logistique, fourniture des biens dans le secteur des six mentionnés.
Mais sur le terrain, on ne voit pas l'intendance générale, on voit plutôt d'autres services. Comment pouvez-vous expliquer cela?
Depuis ma prise de fonction dans cette institution de la Grande Orientale en octobre 2023, nous avons dû trouver un projet signé au niveau national par le prédécesseur de l'actuel ministre, c'était Moïse Ndonzangi. Et tous ces projets ont été négociés à partir de Kinshasa, c'est-à-dire l'intendance au niveau national ainsi qu'au niveau provincial a fait de son mieux pour voir comment piloter tous ces projets-là, mais on ne peut en aucun cas aller au-delà de la politique parce que nous sommes limités.
Quel état des lieux pouvez-vous dresser aujourd'hui de l'intendance générale de Kisangani?
Dès ma prise de fonction à la tête de cette grande entreprise d'ingénierie censée accompagner les institutions de l'enseignement supérieur, nous avons trouvé l'institution dans un état chaotique.
Que voulez-vous dire par là, monsieur le directeur?
Dans son objet social, l'intendance a le volet construction. L'intendance a le volet commercial. Et nous avons aussi le volet industriel. Et dans ces trois volets-là, c'est seul le volet construction qui est utilisé, mais piétiné par ce qui nous donne aussi l'émission. Pourquoi j'ai dit piétiné? C'est-à-dire c'est piétiné parce qu'il y a eu des contrats qui ont été signés à l'avance auxquels l'intendance n'était pas associée.
On constate que les machines ne fonctionnent pas. À quoi est dû cet état des choses?
Parce que l'intendance générale a une cabine censée alimenter notre site industriel en énergie électrique opérationnelle, fonctionnelle. Mais notre cabine a été dépouillée de toutes ses capacités depuis 2002 parce que la Société nationale de l'électricité a dû prendre notre transformateur et aller utiliser ça suite à des contraintes énergétiques au niveau de Kisangani. Cet acte-là nous cause préjudice jusqu'à aujourd'hui.
Alors, que faites-vous pour récupérer ce transformateur?
Nous avons relancé les dossiers en maintes fois et les dossiers gérés par la direction provinciale de la SNEL. Nous avons adressé une correspondance au gouverneur de province pour voir comment nous aider dans ces problèmes-là. Nous avons écrit à la conférence des chefs d'établissement. Et de même à Enabel, nous avons écrit, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu gain de cause, raison pour laquelle nos machines ne fonctionnent pas.
Et donc c'est le manque d'électricité qui fait que d'autres services soient dans l'inertie.
Nous le savons tous que l'électricité est le moteur des développements.
Monsieur le directeur, comment alors comptez-vous relancer les activités, la production ici à l'intendance générale?
Pour le moment, la tutelle avait jugé bon d'échanger au niveau national des nouvelles autorités qui nous gouvernent au niveau de l'intendance générale de l'ESI. C'est-à-dire avec cette venue, nous comptons plus sur leur esprit managérial pour que le volet construction, le volet commercial et le volet industriel soit utilisé et mis en application pour relancer. Et pour nous à Kisangani, nous n'avons pas de moyens de locomotion et surtout une source énergétique censée faire fonctionner nos machines en triphasé. Le président de la conférence, à maintes fois, il a promis nous soutenir au niveau de la conférence pour voir comment relancer les activités sur notre site de Kisangani.
Monsieur le directeur, chef d'antenne de l'intendance générale de Kisangani, merci.
C'est à moi de vous remercier pour cette occasion.
Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.